Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Mardi 28 juin,
l'info sur RMC.
Il est 7h sur RMC et RMC Story. Excellent réveil et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La 7e vague de Covid est là. La ministre de la Santé recommande de remettre le masque dans les transports. Les cas ont augmenté de plus de 50% en une semaine. 100€ pour 9 millions de foyers, 50€ par enfant. C'est le montant du chèque alimentaire qui sera versé dès la rentrée de septembre. Et puis, terrible désillusion pour Julien Alaphilippe. Son équipe ne l'a pas sélectionné pour participer au Tour de France qui démarre vendredi.
Elisabeth Borne va échanger à 15h cet après-midi avec les préfets et les directeurs des agences régionales de santé.
Oui, la première ministre va évoquer avec eux la situation épidémique du Covid, marquée par une reprise des cas. Ça augmente partout depuis 3 semaines. Les hospitalisations aussi sont en hausse. Bruno Lina, membre du conseil scientifique, souligne l'importance de respecter les gestes barrières pour cet été.
Les taux d'incidence sont plus élevés dans l'ouest de la France que dans l'est de la France. Par rapport aux tranches d'âge, celles qui sont le plus touchées, c'est entre 20 et 60 ans. Les cas qui sont hospitalisés sont plutôt les plus de 60 ans et surtout les plus de 80 ans. Si on souhaite que la durée de l'épidémie soit plus courte, il est utile de reporter le masque, de se relaver les mains, de reprendre un tout petit peu de distanciation, moins se faire la bise. Tous ces micro-événements vont réduire le taux de transmission.
Hier, la future ex-ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a invité à remettre le masque dans les transports en commun. Marilyn Hotman est allée vous demander pour RMC si vous allez suivre ses recommandations.
Le retour du masque sur les visages des Français, certains l'approuvent.
Peut-être qu'il ne fallait pas enlever le masque si précipitamment.
Je vais obéir quand même à tout ça, quoi. Et même comme ça, je le mets déjà.
Moi, ça me dérange pas.
Car mieux vaut prévenir que guérir.
S'il faut ça pour éviter de passer un été encore avec des confinements ou d'autres choses, ça vaut le coup, donc oui.
Remettre le masque, il n'y a pas de souci.
Mais si d'autres restrictions tombent pendant l'été,
je ne serai pas très pour.
Il sera plus difficile pour eux de s'y plier.
Je prévois de voyager et j'aimerais bien que les frontières restent ouvertes, que les bars et restos restent ouverts.
Car ces vacances, beaucoup les attendent.
L'été, je vais en profiter. J'espère en profiter. J'espère qu'on n'aura pas à nouveau des restrictions pour aller au restaurant, aller au cinéma.
Ça va gâcher l'été, tout simplement. C'est pas que j'ai peur, mais ça va gâcher l'été. L'annulation des vols,
franchement, c'est un enfer.
On a assez donné, ouais. Et puis, ouais, on a assez donné. Franchement.
Certains épidémiologistes se veulent assez rassurants. Il y aura bien une vague, mais elle ne sera pas si massive grâce à la période estivale, avec les activités en plein air et la fermeture des écoles.
Et vous d'ailleurs, est-ce que vous répondrez à l'appel de la ministre de la Santé? Allez-vous remettre le masque dans les transports? L'avez-vous d'ailleurs enlevé? Vous nous appelez tout pour témoigner au 32-16.
7h03 sur RMC. Le gouvernement va à nouveau sortir le carnet de chèques. Alors que l'inflation est galopante, on pourrait frôler les 7% à la rentrée. Cette aide sera versée en urgence sur le compte en banque des 9 millions de foyers bénéficiant des minima sociaux. Les détails avec Romain Cluzel pour RMC.
9 millions de foyers devraient toucher ce chèque alimentaire. Selon les Échos, le montant initial devrait être de 100€ et 50€ supplémentaires pour chaque enfant. Seraient concernés les bénéficiaires de différents minima sociaux, le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse et les APL. La facture pour l'État s'élèverait à 1 milliard d'euros. C'est une piste de travail, tempère une conseillère d'Elisabeth Borne. Selon Matignon, le dispositif pourrait être modifié après les échanges de la Première ministre avec les chefs de groupe à l'Assemblée prévus cette semaine. Quoi qu'il en soit, cette aide ne fera pas partie de la loi pouvoir d'achat et sera actée par un décret. Elle pourrait être délivrée dès le mois de septembre en virement direct sur les comptes des personnes concernées.
Jour décisif à l'Assemblée nationale pour la répartition des postes de pouvoir et à 15h, désignation du président de l'Assemblée. Et sauf surprise, c'est une femme pour la première fois, Yael Braun-Pivet, qui remplacera Richard Ferrand au perchoir. Damien Abad, visé par une troisième plainte, une élue centriste accuse le ministre des Solidarités d'avoir tenté de la violer, c'était en 2010. Lui conteste les faits avec la plus grande fermeté et annonce déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Martin Juret.
C'est au cours d'une soirée chez lui que Damien Abad aurait tenté de violer la jeune femme. D'abord, il aurait mis quelque chose dans son verre qu'elle dit avoir immédiatement recraché dans les toilettes. Mais l'ancienne eurodéputée l'aurait alors poussé dans une pièce puis tenté de la contraindre à une fellation. Un témoignage déjà publié par Mediapart il y a 2 semaines sous le nom d'emprunt de Laetitia. À l'époque des faits présumés, la plaignante dirige une fédération locale d'un mouvement de jeunesse centriste, alors que Damien Abad, lui, en est le président au niveau national. Cette plainte répond donc à l'appel de la première ministre Elisabeth Borne. Elle avait invité les femmes accusant Damien Abad à se pourvoir en justice. De son côté, le ministre des Solidarités dénonce une nouvelle fois des accusations mensongères. Il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse.
7h05 sur RMC, Emmanuel Macron a parlé d'horreur absolue après la frappe qui a visé un centre commercial de Kremenchuk en Ukraine. La frappe a fait au moins 18 morts. Le bilan s'est alourdi ce matin. Pour Volodymyr Zelensky, c'est un crime de guerre. Il affirme qu'il y avait 1 millier de personnes à l'intérieur. Cette frappe a en tout cas sidéré les dirigeants du G7, toujours réunis au château d'Allemont en Bavière, où vous vous trouvez pour RMC. Jérémy Trottin, vous êtes le chef du service politique.
Oui, sidération en effet, Céline. Les leaders du G7 étaient réunis ensemble hier après-midi lorsqu'ils ont découvert la terrible nouvelle sur leur téléphone. Selon nos informations, Emmanuel Macron prend instantanément la parole. Il est alors décidé d'attendre les remontées des services de renseignement pour s'exprimer. Un nouveau point est fait pendant le dîner et c'est alors qu'il est décidé de réagir via un communiqué commun. Les chefs d'État et de gouvernement condamnent d'une même voix une attaque abominable, brutale sur des victimes innocentes et dénoncent un crime de guerre perpétré en plein G7. Unité donc affichée en réponse à la provocation de Vladimir Poutine. La deuxième en moins de 48 heures et au moment où les frappes de missiles s'intensifient, selon le président Zelensky, 62 frappes pour la journée de dimanche contre 15 en moyenne. Dans cette guerre à distance, qui ne dit pas son nom, les puissances occidentales ont encore promis hier soir d'accroître leur soutien financier, humanitaire et militaire à l'Ukraine.
Jérémy Trottin, envoyé spécial de RMC en Allemagne. L'info de la nuit aux États-Unis, au moins 46 personnes ont été retrouvées mortes à San Antonio, au Texas, dans un camion, un moyen de transport souvent utilisé par les migrants pour passer la frontière. 16 personnes ont survécu. Écoutez les précisions du chef des pompiers sur place.
Les patients que nous avons vus étaient brûlants quand on les a touchés. Ils souffraient de coups de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur. On n'a pas trouvé de traces d'eau dans le véhicule. C'est un camion charnier réfrigéré, mais visiblement la climatisation ne fonctionnait pas dans cette remorque.
7h06 sur RMC, ce sera donc sans lui pour cette fois. Julien Alaphilippe ne prendra pas le départ du Tour de France vendredi au Danemark. Le double champion du monde n'a pas été sélectionné par son équipe Quick-Step Alpha Vinyl 2 mois après sa lourde chute. Un coup dur pour le Français Nicolas Pelletier.
Oui, un véritable déchirement pour Julien Alaphilippe. Dans le quotidien L'Équipe, le Français explique qu'une grosse partie de lui espérait faire le Tour de France et une autre partie était beaucoup plus réaliste, qui connaissait la dureté de cette course et son exigence. Je ne suis plus le même qu'avant, c'est une certitude, affirme le champion du monde tricolore. Alaphilippe avait pourtant effectué un retour convaincant à la compétition dimanche lors des championnats de France, mais cette performance n'a pas suffi à rassurer son équipe. Julien Alaphilippe explique qu'il n'aurait pas supporté de passer son mois de juillet à souffrir, à être juste là parce que ça fait plaisir aux gens. Le chouchou du public de la Grande Boucle avoue être trop limite. Sans le Tour de France, Alaphilippe peut désormais penser à d'autres objectifs comme la conquête de son 3e titre mondial au mois de septembre en Australie.
Nicolas Pelletier pour RMC Sport.
C'était le journal de Céline Kalman. Il est 7h07 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Un témoignage RMC après la mort d'un enfant empoisonné à Lyon dans une crèche People and Baby. La maman de 3 enfants qui avait porté plainte contre ce même groupe est notre témoin du jour dans un instant sur RMC.
RMC, 6h-8h30, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h18 sur RMC, 7h08, pardon, je vois absolument rien à l'antenne puisqu'il y a un problème de cloque. Il est 7h09 précisément sur RMC et c'est l'heure du témoin du jour.
Le témoin du jour.
Le témoin du jour, c'est vous Rita, bonjour.
Bonjour,
merci de vous confier ce matin sur RMC. Vous êtes mère de 3 enfants et vous êtes en ligne avec nous ce matin pour témoigner de ce qui se passe dans les crèches, ou en tout cas ce qui est arrivé vous-même à vos enfants. On parle des crèches parce qu'il y a eu ce drame absolu, la mort d'un enfant à Lyon, empoisonné par une de ses encadrantes alors qu'il était pris en charge dans une structure du groupe People and Baby, donc dans une crèche de Lyon. Et les crèches de ce groupe, elles sont présentes un peu partout partout en France. Et on a un peu l'impression qu'on soulève une pierre et qu'en dessous, on voit eh bien, la réalité qui fait un peu penser à ce qui se passe avec les EHPAD, avec Orpea, c'est-à-dire la dépendance de personnes, en l'occurrence des tout-petits-enfants, dépendance dans un groupe où l'encadrement défaille. Vous, Rita, vous aviez porté plainte contre le groupe People and Baby. Cette fois-ci, c'était à Lille et c'était en décembre 2021. Pourquoi ?
Oui, alors pour commencer, déjà toutes mes pensées vont à la famille endeuillée et mes pensées vont aussi à toutes les familles qui ont beaucoup de choses à dénoncer et qui n'ont pas l'opportunité que vous me donnez de s'exprimer. Alors moi, j'ai effectivement porté plainte contre le personnel et contre cette structure. C'était pas en décembre, c'était en mai 2021, après avoir récupéré un de mes enfants. À l'époque, j'avais deux petits garçons qui sont des jumeaux qui étaient dans cette crèche à ce moment-là. Oui. Et un soir, je récupère mes enfants et au moment du bain du soir, je constate sur le corps de mon enfant des lésions. Dont la nature, la localisation, le type, était de toute évidence pour moi en tant que médecin, j'ai reconnu de manière flagrante des
lésions de maltraitance. Vous êtes médecin, vous-même, Rita.
Je suis médecin, mon époux est médecin, donc pour nous, il n'y avait pas photo, c'était évident, il s'agissait de lésions typiques par leur forme, leur localisation et leur nature, de maltraitance, et c'était des lésions qui avaient été causées forcément par un adulte. Donc ça, on l'a reconnu en tant que médecin, ouais. On a dû l'admettre en tant que parent, c'était pas le même processus, mais bon, forcément, ouais. Ça s'impose à nous. Et puis,
il avait quel âge, votre enfant, Rita ?
Alors, au moment des faits, il avait 28 mois. Ils avaient tous les deux 28 mois, parce que j'avais un autre enfant, ce sont des jumeaux, mais celui
qui j'ai constaté initialement. Un peu plus de 2 ans.
Oui, voilà, exactement.
D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous vous êtes tournée vers la structure ?
Mais alors, tout simplement, à partir du moment où j'ai compris, parce qu'une fois que vous admettez, comme je vous ai dit, en tant que parent, rétrospectivement, en fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que vous commencez à comprendre ce qui s'est passé depuis des semaines, en fait, et des mois, rétrospectivement.
Oui, c'est comme un flash tout d'un coup, et vous vous dites, mais attendez, bien sûr.
C'est une prise de conscience. Alors, au-delà des phénomènes, en tant que parent, qui vous touchent de culpabilité, qui sont déjà un autre problème à gérer, il y a toute une affaire de responsabilité. En tant que citoyen, en tant que parent, donc déjà numéro un, j'ai activé absolument tous les leviers d'alerte que j'ai pu activer, qui étaient, à mon niveau en tant que parent. Et c'est ça aujourd'hui ce qu'il faut dénoncer. Alors, j'ai activé la première chose, déjà, je me suis tournée vers le siège, évidemment, vers la direction, la directrice de la crèche. Mmh. J'ai obtenu des explications qui m'ont pas du tout convaincue.
Qu'est-ce qu'elle vous a
répondu ?
À savoir
que, alors par mail, j'ai envoyé les photos, j'ai demandé des explications cordialement. Bon, en fait, elle m'a répondu déjà avec un grand décalage entre ce que je demande et la gravité des informations que je demande et le ton qui a été employé. Mmh. Et elle m'a répondu que, écoutez, c'est ça la vie en collectivité et qu'il y avait probablement, apparemment, un enfant un peu plus turbulent que les autres dans le groupe, qui était responsable des blessures de mon fils, apparemment, qu'elle n'en était pas très sûre. Mais à aucun moment, on ne m'a proposé d'entretien ou quoi que ce soit, et ça m'a vraiment heurtée. Donc, suite à ça, je n'étais pas convaincue du tout, forcément, parce que comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas photo. Ça ne pouvait pas être causé par un enfant. Et pour obtenir une expertise par un médecin légiste sur un mineur, je me suis rendue au commissariat. Il a fallu porter plainte, et c'est comme ça que j'ai déposé plainte en mai 2021.
Quelle a été la suite ? Il y a une enquête qui est ouverte ?
Alors, la suite, d'un point de vue juridique, il y a eu une enquête qui a été ouverte, il y a eu plusieurs personnes auditionnées. La plainte a été déposée en mai. En septembre, j'apprends avec beaucoup de désarroi que la plainte a été classée sans suite, initialement. Et en février, je reçois un appel de la Brigade des mineurs de Lille qui m'appelle pour m'informer que le parquet a réouvert le dossier, que le classement sans suite a été annulé et que l'audience est prévue pour mars 2023. D'accord. Donc a priori, il y a eu encore d'autres événements entre le premier classement sans suite et l'ouverture et l'organisation de l'audience en mars 2023.
Ça veut dire tristement que vous n'êtes sans doute pas la seule et que donc, avec plusieurs signalements, ils se sont dit on rouvre le dossier, on rouvre l'enquête. Rita, plus globalement, votre témoignage, moi ce qui me paraît très important aussi ce matin, c'est qu'on se rend compte, après le drame absolu de ce qui s'est passé à Lyon, que... Oui. Il y a quelque chose aussi, je le disais, presque comme avec les EHPAD, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une défaillance d'encadrement. Oui. Ce sont quand même des crèches privées, il faut le rappeler, qui sont aussi des groupes qui font de l'argent, en quelque sorte, peut-on le dire, avec nos enfants. Normalement, tout cela est très encadré. Vous avez eu le sentiment, est-ce que vous aviez eu des... Quand vous dites, j'ai eu un flash et j'ai repensé à ce qui s'était passé précédemment, est-ce que vous aviez eu parfois des doutes? Est-ce que parfois vous étiez dit, l'encadrement n'est pas à la hauteur?
Bah, pour être honnête, oui, clairement, mais ça, on le comprend rétrospectivement, parce qu'on s'imagine pas que tout ça, ça peut arriver, de toute évidence. Après, pour faire le parallélisme avec les personnes âgées, on est à deux âges extrêmes de la vie. Mmh. On est dans un cas d'extrême vulnérabilité dans les deux cas. On est dans des grosses structures qui sont quand même hyper puissantes et qui génèrent beaucoup d'argent. On est dans des logiques financières au lieu d'être dans des logiques de l'humain. Et c'est ça le problème. C'est pas le même public, certes, mais ce sont les mêmes problématiques. Et donc, ce sont les mêmes solutions à apporter. Aujourd'hui, il faut apporter des solutions, si vous voulez. Raconter son témoignage. Des témoignages, il y en a plein. C'est juste que les gens ne peuvent pas s'exprimer, parce que ce qui se passe, c'est que quand un parent pointe du doigt, quand on essaye de dénoncer une maltraitance dans une crèche, vous savez ce qui se passe dans un foyer? C'est une onde sismique. Parce que vous vous retrouvez avec vos enfants dans les bras. Professionnellement, c'est la catastrophe. Moi, je n'ai pas pu assurer mes consultations présentielles. Alors, je me suis repliée sur la téléconsultation. J'ai perdu beaucoup d'argent par mon salaire que j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup de temps. Bref, tous les foyers ne peuvent pas supporter ça. Et c'est une situation de vulnérabilité des foyers, et ils le savent. Et cette toute puissance des structures qui se permettent trop de choses, parce qu'en face d'eux, il y a des victimes qui parfois ne peuvent pas parler, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc c'est une forme de prise d'otage.
Et puis il faut se rendre compte aussi, là en l'occurrence vous vous en êtes rendu compte, mais certains parents, les enfants ne peuvent pas parler, ne peuvent pas exprimer, ne réalisent pas. Rita, est-ce que vous en avez parlé avec les autres parents de la crèche?
Oui, tout à fait. Alors là c'est le comble, parce que, alors bon, comme je vous ai dit, bon, j'ai alerté tout ce que j'ai pu alerter, la direction, le 119, ils sont sursaturés, les associations, ils ne sont pas forcément formés à ça. J'ai appelé les parents. La plainte, elle a été déposée le vendredi. J'ai alerté les parents parce que j'estimais que c'est mon devoir. J'ai compris que beaucoup de parents étaient bloqués. C'est difficile de dénoncer ça. Ça, je l'ai compris plus tard. Pourquoi? Mais alors c'est ce qui m'a marqué. C'est que quand même, il m'a été reproché par la directrice opérationnelle régionale, par la responsable opérationnelle, parce que suite à mon alerte des parents, ils ont dû faire face forcément à une vague d'anxiété, forcément, de la part des parents. Des coups de fil, des parents devant la porte. Ouais. Et là, il m'a été reproché, madame, et là, vous allez comprendre où est l'origine du problème. Et c'est que, madame, vous avez fait d'un problème individuel une affaire collective. Affaire collective. On voit bien aujourd'hui que c'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif, et bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc il faut arrêter cette... On essaye d'étouffer les dénonciations, les témoignages,
Rita,
des gens.
Oui. Rita, comment va votre enfant maintenant?
Alors aujourd'hui, mon enfant, il va bien. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est un petit peu renverser, rééquilibrer un peu le pouvoir des choses. Je veux proposer juste des pistes pour mettre un peu la puce à l'oreille.
Mérita, est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé?
Plus ou moins. Alors, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que j'ai bien agi. Ce que j'ai compris, c'est que j'ai bien fait d'alerter, même si ça n'a pas été toujours fructueux, parce que j'ai été confrontée, franchement, au mieux à de l'indifférence, au pire à du mépris de la part de plusieurs acteurs du groupe. Mais ce que j'ai compris, c'est que j'ai bien fait. Après, ce qui s'est passé exactement, comment et pourquoi et qui, je laisse la justice faire son travail et je comprendrai plus tard. Mais en tout cas, ce que je veux aujourd'hui, c'est donner la parole aux parents. Je veux créer un collectif de parents. Aujourd'hui, j'appelle toutes les familles et tous les parents qui ont besoin de dénoncer quelque chose, mais qui ne peuvent pas, qui ne sont pas entendus. Je les appelle même à écrire à une adresse mail qui est protection-enfance-crèche, tout collé au singulier, @gmail.com. Je vous invite à me rejoindre par vos témoignages, et parce qu'il va falloir que ça bouge. Et j'invite également, s'il vous plaît.
Mais ça bouge, ça bouge globalement d'ailleurs, on le voit bien, depuis quelques jours, ça bouge partout en France.
Mais c'est dramatique que pour que ça bouge, on en arrive à des situations aussi graves. Aussi graves. Aujourd'hui, la France, elle est en deuil. Et pourquoi attendre ça alors qu'on a alerté? Alors qu'à Lille, on a alerté il y a un an. Il y a un an qu'on a alerté. Il faut savoir que la moindre maltraitance sur laquelle on ferme les yeux, le moindre excès sur lequel on ferme les yeux, ça aboutit inéluctablement par un processus qui n'est jamais vertueux de violence, inéluctablement à ces drames. C'est pour ça. Il faut une tolérance zéro. Il faut une prévention de la maltraitance. Il faut que l'État mette en place des systèmes de contrôle des crèches, inopinés et indépendants, parce que leur auto-évaluation et les enquêtes en interne, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, ça. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut une labellisation de l'accompagnement des enfants, un gage de qualité, vous voyez, de l'accompagnement.
Rita, on entend bien sûr que vous voulez plus globalement faire, puisque heureusement votre enfant va bien aujourd'hui, mais vous aviez alerté, en faire plus globalement aussi une sorte de réveil, de manière de réveiller aussi les autres parents. On le voit bien, des témoignages affluent de différents endroits de France. Je rappelle donc l'adresse mail que vous avez créée pour pouvoir effectivement vous mettre en relation éventuellement avec d'autres parents. protectionenfancecrèche@gmail.com. Merci Rita de votre témoignage ce matin après effectivement la plainte que vous aviez déposée en 2021 après que votre enfant ait sans doute suivi des maltraitances dans la crèche. L'enquête est ouverte. Il est 7h20 sur RMC. Vous n'hésitez pas, vous réagissez vous aussi d'ailleurs au 32-16.
RMC 6h-8h30.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC, 10 mois d'audience et après. Le procès des attentats du 13 novembre s'est terminé hier. Le verdict est attendu demain.
Et Samia Maktouf, qui a suivi l'intégralité de ce procès, qui est l'avocate d'une quarantaine de victimes, sera notre invitée du jour. Elle sera dans ce studio à 7h40. Mais avant cela, Charles, la politique.
Un petit mois et puis s'en va. Yaël Braun-Pivet a déjà trouvé un poste plus prestigieux que son poste actuel de ministre des Outre-mer. Je vous explique tout ça dans un instant.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h25, l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat prévoit un renforcement de la prime de transport. D'abord, rappelez-nous comment ça fonctionne.
Alors, la prime de transport, elle est versée par les entreprises à leurs salariés pour couvrir une partie de leur déplacement domicile-travail. Alors, elle est obligatoire quand le salarié prend les transports en commun et elle se monte à 50% du coût du transport. En revanche, pour une prime qui concerne les dédommagements quand vous venez avec votre voiture, ça se discute dans le cadre de négociations au sein de l'entreprise. Et là, l'employeur peut proposer une prise en charge des frais allant jusqu'à 200 euros par an. C'est quand même le cas de 7 salariés sur 10, le fait de venir en voiture.
Qu'est-ce qui devrait changer?
Alors, c'est le plafond de la prise en charge, d'abord, qui va être augmenté. La limite, ce ne sera plus 200 euros par an, mais ce sera 400 euros par an pour les années 2022 et 2023. Les salariés pourront aussi cumuler cette prime avec la prise en charge par l'employeur, justement, de 50% du prix des abonnements au transport en commun. Avant, c'était soit vous veniez en voiture, et vous aviez éventuellement quelque chose, soit vous veniez en transport en commun et vous aviez systématiquement quelque chose. Là, vous pourrez choisir d'avoir les deux, venir en transport en commun ou parfois en voiture, vous pourrez être dédommagé aussi. Le plafond prévu également en cas de cumul de la prime de transport avec le forfait mobilité durable, et là, c'est encore une surprime si vous venez avec un moyen de locomotion non polluant, et là, on passe d'un plafond de 500 à 700 euros, qui serait vraiment le grand maximum, 700 euros par an, ça fait presque 60 euros par mois.
Avec un peu plus de salariés aussi qui auront droit à cette prime de transport. Hein.
Oui, absolument, parce que jusqu'ici, cette prime, elle était réservée aux salariés hors Île-de-France ou d'une zone urbaine, ou à ceux qui avaient des horaires qui les empêchaient d'utiliser les transports en commun. Elle sera maintenant accessible à tous.
Et on verra évidemment si ça passe, parce que pour l'instant quand même, ce paquet pouvoir d'achat, il va falloir qu'il affronte la question de la majorité. Et vous voyez cette transition si habile avec la politique de Charles.
Charles en campagne.
Parce que Charles, vous scrutez le monde politique et la question du jour, c'est qui succédera à Richard Ferrand au perchoir. Les députés vont élire aujourd'hui le nouveau ou la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est la candidate macroniste Yaël Braun-Pivet qui fait figure d'ultra favori.
Ouais, Yaël Braun-Pivet, son nom ne vous dit sûrement rien. Pourtant, il y a à peine un mois.
Le président de la République a nommé Madame Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer.
C'était le 20 mai dernier et dès le lendemain, elle était dans les médias pour dire sa joie d'accéder à ce poste.
Vraiment, le portefeuille des Outre-mer est le plus beau portefeuille qui soit. Tout le monde est prêt à se retrousser les manches à mes côtés.
Les manches retroussées, elle faisait le tour des micros pour parler de son ambition.
J'espère qu'on pourra construire ensemble un vrai chemin d'avenir, de progrès pour nos Outre-mer. En tout cas, moi, j'y mettrai toute mon énergie.
toute son énergie pour un chemin d'avenir pour les Outre-mer. C'était il y a 3 semaines et c'est fou comme le temps passe vite en politique parce que il y a quelques jours...
Yael Braun-Pivet, qui est actuellement ministre des Outre-mer, qui est candidate pour le poste du perchoir.
Voilà, visiblement, le perchoir attire plus que les Outre-mer. Et pour s'y faire élire, Yael Braun-Pivet a détaillé son programme révolutionnaire.
Ma candidature est celle de l'apaisement, celle du consensus, celle du respect de chacun. Et je crois que dans l'Assemblée qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une candidature comme cela qui est importante pour de la stabilité.
Apaisement, stabilité, respect, c'est dommage, ça aurait pu être pas mal aussi pour les Outre-mer, mais finalement, Yael Braun-Pivet va quitter son ministère avec un record, celui du passage le plus rapide, 1 mois et 5 jours, c'est mieux qu'Hervé Mariton qui avait tenu 1 mois et 18 jours en 2007 à ce même poste. Alors j'ai vérifié, en 1 mois, elle a eu le temps de se déplacer une fois en Guadeloupe, pour le reste, tous ses déplacements de ministre ont eu lieu dans les Yvelines, pour cause de campagne législative bien loin des Outre-mer.
Avec une question d'ailleurs assez technique, c'est de savoir si elle sera officiellement députée, redevenue députée, puisque comme elle était ministre, elle a démissionné.
En plus, oui.
Et normalement, on met 1 mois avant de retrouver son poste de députée, donc elle pourrait être au perchoir, présidente de l'Assemblée nationale, sans être devenue officiellement députée.
C'est bien, parce qu'on n'a pas besoin d'instabilité politique
non,
en ce moment.
Non, on n'en est plus à ça près. Il est 7h29, à tout de suite pour la météo journal. Il est 7h30, excellent réveil à vous tous qui nous écoutez sur RMC ou qui nous regardez sur RMC Story, canal 23. C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La barre symbolique du plein à 100 euros avant les grandes vacances. Les prix des carburants en légère baisse sur une semaine, mais qui reste à des niveaux très élevés, vous allez l'entendre. Le bras de fer des salaires, ça continue. Grève illimitée à partir de ce matin dans un des plus gros hôpitaux de France à Bordeaux. Et puis les jurés qui délibèrent au procès des attentats du 13 novembre à Paris en attendant le verdict demain.
Les grandes vacances approchent et le budget sera plombé par les prix des carburants.
Alors, ils sont repartis à la baisse depuis une semaine, mais on est encore largement au-dessus des 2 euros, surtout pour le gasoil, 2,13 euros en moyenne le litre, avec à l'arrivée donc un plein à plus de 100 euros. Bien souvent, la barre est franchie, ça y est. Exemple dans la région de Lyon avec Vincent Chevalier pour RMC.
Essence ou diesel, même combat. Pour ces automobilistes, la facture sera salée.
Là, normalement, on dépasse les 100 euros.
110, 120,
145 euros.
Oh, je pense 150 euros à peu près.
Impossible de se passer de la voiture au quotidien. Il faut donc faire avec.
10% de mon salaire, donc ça commence à piquer.
Je peux plus me permettre un déplacement inutile, quoi.
Ça se ressent sur mon budget personnel.
Notamment le budget vacances. Laetitia et sa famille partiront, mais en France, et avec un œil sur la jauge essence de la voiture.
On la laissera sur le lieu de vacances, et puis on marchera peut-être un peu plus.
Par contre, pour Gérard, des vacances cet été...
Il y en a point.
Ce retraité de 70 ans n'a pas les moyens.
À cause de la conjoncture actuelle, vous payez. Donc des vacances, cette année, il y en a pas.
Des automobilistes défavorisés par le contexte international entre le prix élevé du baril et l'arrêt des importations de pétrole russe. Le carburant devrait rester cher ces prochaines semaines. Francis Pousse, président national station-service chez Mobilience.
Cher à des niveaux de prix comme on a aujourd'hui, tant que l'ensemble des pays européens n'ont pas réussi à retrouver d'autres approvisionnements de produits raffinés, entre autres.
Difficile de s'en rendre compte, mais la remise gouvernementale de 18 centimes à la pompe est toujours en place. Elle a même été prolongée jusqu'à fin août.
Et dans ce contexte interminable de flamber les prix, on apprend dans le journal Les Échos que le nouveau chèque alimentaire versé à la rentrée de septembre sera de 100 euros plus 50 par enfant pour 9 millions de foyers touchant les minima sociaux. La bataille des salaires qui continue, je vous le disais, avec encore une grève, mouvement illimité qui commence ce matin au CHU de Bordeaux, un des plus gros de France, pour de meilleurs salaires, pour des embauches aussi avant un été qui s'annonce compliqué, nous dit Nicolas Magontier de Force Ouvrière.
Il y a plein de promesses qui sont faites, mais rien n'avance. Et donc on veut des revalorisations salariales pour l'ensemble des agents et pas que pour les soignants. On veut du matériel qui fonctionne. On veut des lits ouverts et pas des fermetures de lits consécutives. On veut des diplômes qui nous amènent des soignants sur le terrain. On a de plus en plus de départs et là cette année ça s'est encore plus accru. On passe moins de temps auprès du patient, il faut faire du à la chaîne. C'est un métier qui demande de l'humanité, sauf qu'en fait on nous en rajoute, mais pas dans le côté humain en fait.
L'hôpital face au Covid a d'ailleurs 71 000 cas en moyenne sur une semaine. C'est la 7e vague. On l'observe depuis 3 semaines qui remonte. Le gouvernement demande d'ailleurs aux Français de remettre les masques dans les transports en commun. Damien Abad, visé par une 3e plainte pour violence sexuelle. Cette fois, c'est une élue centriste qui dit avoir subi une tentative de viol en 2010 et qui vient de porter plainte auprès du parquet de Paris. Le ministre contre-attaque et porte plainte lui aussi pour dénonciation calomnieuse. Les jurés délibèrent au procès des attentats du 13 novembre à Paris. C'est demain qu'ils vont rendre leur verdict très attendu dans ce procès hors norme qui a commencé en septembre dernier et qui s'est terminé hier par les nouvelles excuses de Salah Abdeslam, le seul rescapé des commandos. Maxime Lévy du service police-justice à RMC, comment ça va se passer ?
Ce sont des jurés professionnels, des magistrats, qui vont établir le verdict, contrairement au procès d'assises classique composé de jurys populaires issus de la société. Et en ce moment même, ces 10 magistrats sont confinés, reclus dans une caserne militaire en Île-de-France, un endroit tenu secret pour délibérer. Ils vont devoir répondre à une série de questions, des dizaines sur chacun des accusés, et vont, dans le secret, remplir des petits bulletins avant de les détruire et enfin déterminer les peines qu'ils prononceront. Toute la question est de savoir s'ils suivront les réquisitions du parquet national antiterroriste, comme la peine de perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam. Les juges vont-ils estimer qu'il pourra un jour sortir de prison ? Réponse demain soir lors du verdict qui sera, après 10 mois d'audience, la dernière pierre de ce procès historique.
Le bilan revu à la hausse ce matin en Ukraine. Au moins 18 morts dans une frappe russe visant un centre commercial dans le centre de l'Ukraine. C'était hier après-midi, au moment où les pays du G7 se réunissaient en Allemagne. Un nouveau crime de guerre, disent d'ailleurs les pays du G7. Condamnation aussi à l'ONU, via son porte-parole.
C'est déplorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Une infrastructure civile comme un centre commercial ne doit jamais être pris pour cible. On est évidemment inquiet de l'intensification des combats qu'on observe. Encore une fois, on insiste sur le fait que le droit international oblige les pays à protéger les civils et les bâtiments civils. On espère que malgré ce qui s'est passé, les discussions vont se poursuivre et qu'on arrivera à un accord.
C'est le feuilleton de ce début d'été en football. Et ça dure. L'arrivée à Paris de Christophe Galtier n'est toujours pas bouclée. Et pendant ce temps, c'est son club, bientôt son ancien club de Nice, qui vient de reprendre l'entraînement sans lui, nous dit Maxime Tiguette pour RMC Sport.
Oui, Christophe Galtier n'attend plus qu'une chose, que la place de Pochettino se libère au PSG, mais l'opération ne fait plus aucun doute, à en croire le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River.
On connaît à peu près la destination de Christophe, ils ont encore des petites choses à régler, mais ça c'est de leur côté, je ne vais pas me mêler de leur côté sur le plan juridique. J'ai été très heureux d'avoir Christophe comme coach, et encore une fois, je souhaite que Christophe fasse la meilleure des saisons pour lui possible, et c'est une opportunité pour lui qui est fantastique à prendre. Voilà.
Arrivé l'été dernier avec de grandes ambitions et un statut de meilleur entraîneur du championnat après son titre avec Lille, Christophe Galtier va finalement quitter Nice par la petite porte, car même si son contrat court toujours avec le club rouge et noir, la reprise de l'entraînement s'est faite sans lui, mais avec un visage bien connu du club.
Les contacts avec Lucien, on en a toujours eu. J'ai toujours eu de l'affection humainement pour Lucien, et en plus, voilà, c'est pour moi le jeu que j'aime bien voir, et quand on dirige un club de foot, on a envie de voir son équipe bien jouer au football.
Un petit tacle à Christophe Galtier qui, malgré une 5e place et une finale de Coupe de France, n'a pas séduit sur le plan du jeu.
Et puis déjà des rebondissements sur le Tour de France qui n'a pas encore commencé. Julian Alaphilippe, forfait, pas suffisamment en forme pour être au départ vendredi au Danemark, 2 mois après sa lourde chute. Son coéquipier champion de France, Florian Sénéchal, même pas sélectionné d'ailleurs. Et encore des fouilles chez la sulfureuse équipe de la Bahreïn Victorious qui avait déjà été ciblée pendant la dernière grande boucle.
Et puis le Quintet, Quentin, c'est à Auteuil. Ce
sera en début d'après-midi à 13h50 sur RMC Découverte. Le 10, le 11, ce sont les pronos de la Dream Team ce matin. Le 10 en favori Paris Mix, le 11 en outsider Dominator.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h37 sur RMC. Direction le 32-16 parce que, Cathy, vous venez de nous appeler. Vous nous avez appelé pour réagir au témoignage que vous avez entendu à 7h10 de cette maman qui racontait que son fils avait subi des maltraitances à la crèche alors qu'il avait un peu plus de 2 ans. Cathy, vous-même, vous travaillez en crèche. Vous faites aussi partie d'un syndicat, un syndicat national des professionnels de la petite enfance. Et quand vous entendez le témoignage de Rita, ce que vous voulez nous dire aussi, c'est que ça n'est pas un témoignage si isolé. Il y a aujourd'hui un problème de tension dans les crèches.
Oui, bonjour.
Bonjour Cathy. Voilà.
Bonjour. Donc oui, je rebondis donc sur le témoignage de Rita par rapport à ce qui s'était passé. Donc avec le bureau national, nous avions décidé de justement d'établir un communiqué que nous avions donc diffusé sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui s'est passé malheureusement.
Donc quand vous dites malheureusement ce qui s'est passé, je rappelle juste à ceux qui nous écoutaient pas forcément à 7h10 qu'il y a eu un drame à Lyon la semaine dernière, un enfant qui a donc été empoisonné par une des personnes encadrantes dans une crèche People and Baby.
Voilà. Et c'est pour ça que justement, on était choqués donc à l'annonce de cette tragédie. On était donc justement sidérés par rapport à ce qui s'est donc produit. Mmh. Et justement, d'une manière plus large, le CNPE veut justement pointer du doigt le cadre réglementaire des micro-crèches. Ce sont des structures qui sont donc créées déjà en 2007, oui, qui permettaient justement d'accueillir 9 enfants à leur création, désormais maintenant 12 enfants. Oui. Elles ont été imaginées pour permettre justement de créer des places en crèche en secteur rural. Mmh. Mais afin que la structure ne soit pas trop onéreuse en fonctionnement, sous la pression des représentants des gestionnaires, un cadre réglementaire dérogatoire a été mis en place permettant de n'avoir qu'une seule professionnelle à l'ouverture et à la fermeture jusqu'à 3 enfants.
Ça veut dire, Cathy, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, quand vous dites sous la pression des gestionnaires, on entend même presque sous la pression des actionnaires, hein, si je vais un peu plus loin que ce que vous nous dites. Au fond, quand je disais tout à l'heure que ça nous faisait penser aussi à ce qui s'est passé dans les EHPAD, où l'on a découvert ou redécouvert, tristement à la faveur de cette grande enquête, que les personnes dépendantes dans des structures qui ont vocation aussi à faire des profits, il y a quand même évidemment toujours une sorte de contradiction ou en tout cas une inquiétude. Je me souviens d'ailleurs d'avoir reçu ici même sur RMC les auteurs de cette enquête qui m'avaient posé la question très frontalement en disant mais est-ce que vous metteriez vos enfants de 6 mois dans des structures avec des actionnaires qui font partie du CAC 40? Et c'est vrai que c'est une question où on se disait l'enfant étant dans une extrême dépendance, est-ce qu'on a envie de le mettre dans un endroit où on tire sur les coups? C'est ce que vous dénoncez, Cathy. Vous travaillez vous-même à quel niveau de dans une crèche?
Bah, je suis actuellement dans une micro-crèche, donc à Paris, dans le 16e. Donc, c'est un réseau de micro-crèches. Ouais. Donc, le gestionnaire a pour des établissements des micro-crèches et deux petites crèches. Mmh. Et actuellement, effectivement, nous avons aussi, on parlait aussi de pénurie de personnel, bien entendu. Mmh. Mmh. Donc, quelquefois, on est obligé justement de faire face aux absences donc des unes et des autres et de revoir toute une organisation justement pour pallier justement à s'occuper des enfants d'une façon correcte et avec bienveillance pour être plus auprès d'eux que de n'être que donc sur des auprès des tâches donc journalières qu'on a actuellement en micro crèche.
C'est la grande difficulté, hein, cette grande tension que l'on découvre sur les crèches. J'invite tout le monde à lire votre rapport puisque Cathy, vous nous avez appelé au 3216, vous êtes une auditrice d'RMC pour réagir, mais vous faites partie de ceux qui ont donc rédigé ce rapport sur les places de crèches fermées. Ce rapport qui est donc fait par le Syndicat National des Professionnels de la Petite Enfance, dont vous êtes vous-même membre, vous-même qui travaillez donc dans une crèche à Paris. Merci de votre témoignage plus large qui permet aussi de voir que le témoignage d'une maman, Rita tout à l'heure à 7h10, n'est donc pas un témoignage isolé. Il y a aujourd'hui un problème avec les crèches, la question de l'encadrement, et c'est évidemment urgent de soulever ces questions-là. On le fait avec vous tous, hein. Comme Cathy, vous nous appelez au 3216 pour témoigner. Il est 7h41 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le procès des attentats du 13 novembre est terminé. Le verdict est attendu demain. Mais est-ce la fin du chemin judiciaire pour les victimes et leurs proches? L'avocate Samia Maktouf, qui représente une quarantaine de parties civiles, est l'invité du jour tout de suite sur RMC.
RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h43 sur RMC et c'est l'invité du jour.
L'invité du jour.
C'est vous, Maître Samia Maktouf, bonjour. Vous êtes avocate d'une quarantaine de victimes des attentats du 13 novembre. C'est la fin du procès, on attend le verdict. Les jurés, le jury s'est retiré pour délibérer. Je vous avais reçu au tout début de ce procès. Vous nous aviez dit ce qu'en attendaient, notamment les familles que vous représentez. Je voudrais reprendre les mots que Salah Abdeslam a prononcés pour clore ce procès. « Je vous ai présenté mes excuses », a dit Salah Abdeslam. Certains vous diront qu'elles sont insincères, que c'est une stratégie, comme si des excuses pouvaient être insincères à l'égard de tant de souffrances. Samia Maktouf, est-ce que vous croyez les excuses de Salah Abdeslam ?
Écoutez, qu'on les croit ou pas, ce n'est pas ça le cheminement qui a été effectué depuis 10 mois. D'abord, permettez-moi de vous corriger. Il ne s'agit pas de jury, mais de cours composés par des magistrats professionnels. C'est la cour d'assises spécialement composée qui s'est retirée et reviendra.
C'est un jury professionnel.
C'est des magistrats. Et l'intérêt, c'est qu'ils connaissent le dossier, ils l'ont examiné, et ils vont agir en professionnel et en connaissance du dossier qui est très lourd. Alors, les propos de Salah Abdeslam et d'autres accusés, parce que c'est vrai qu'on met le point sur Salah Abdeslam, mais il n'est pas le seul survivant, permettez-moi de revenir sur ça.
On dit souvent de lui qu'il est le seul encore en vie.
Voilà, mais on a bien compris, et notamment lors de l'excellent réquisitoire prononcé à trois mains par les avocats généraux, on a bien vu en quoi ils étaient interchangeables, en quoi il y avait des survivants, notamment cinq, et là, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la peine la plus lourde a été retenue contre ceux qui, devant la cour, ils ont sorti de leur chapeau le fait qu'ils n'allaient pas, en tout état de cause, passer à cette action criminelle. Pour autant, ils y étaient, ils avaient accompagné, ils auraient pu à tout moment arrêter ça. Et d'ailleurs, Mohamed Abrini l'avait dit à un moment donné, et c'est vrai qu'ils n'ont pas arrêté ce massacre qui a touché la France et au-delà même de la France, plusieurs victimes, plusieurs personnes innocentes.
Mais pardon, je reviens quand même sur les mots de Salah Abdeslam, parce que on imagine la réaction des familles. À plusieurs reprises, il y a eu une sorte de cheminement. Est-ce que ça aura été, avant même la question de la peine, l'une des utilités de ce procès si long, procès fleuve, 10 mois? Est-ce que le cheminement exprimé par Salah Abdeslam, est-ce que les mots, vous parliez à l'instant de Mohamed Abrini qui a dit « je n'ai pas attendu le procès pour avoir des regrets », est-ce que ces mots-là, quelles sont les réactions des familles que vous représentez ?
Alors, il faut d'abord rappeler que les familles, elles étaient préparées, elles savaient pertinemment qu'elles n'auraient pas toute la vérité, seule une vérité allait jaillir de ce procès. Et certainement, c'est une vérité, mais pas la totalité. D'ailleurs, ça a été rappelé hier, et ça a été rappelé dans le réquisitoire, et tout au long de ces 10 mois, ces accusés ont gardé pour eux une grande partie de la vérité et dans le box entre les accusés. Alors, le cheminement des parties civiles, il est très très clair. Ce procès a eu lieu, et ça, c'est exceptionnel, c'est important. Il a eu lieu de manière équitable, dans le respect des droits des accusés, dans le respect de toutes les normes que dictent l'état de droit et la démocratie. Et en cela, c'est important. Vous savez,
c'est
les
une
victimes,
forme de réponse déjà
c'est
à la
une
barbarie.
C'est une réponse à la barbarie. Il y a eu une réponse militaire, il y a eu une réponse politique, et là, nous avons eu une réponse juridique. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Et demain, ces magistrats professionnels vont dire le droit. Et ça va être important, parce qu'à un moment donné, ce qui est attendu, c'est que la justice passe. Et la justice est passée.
J'ai l'impression qu'au-delà de la question de la peine, c'est quoi qu'il arrive, le fait même que le procès ait lieu, le fait même que les magistrats puissent dire la culpabilité ou non, au-delà même de ce qu'ils vont dire, le simple fait qu'ils puissent le faire, que ce procès ait eu lieu, c'était ça la meilleure réponse à donner aux familles des victimes.
C'est la meilleure réponse, et les victimes étaient préparées. Les victimes, d'ailleurs, on ne s'attendait même pas à ce que Salah Abdeslam parle ou d'autres. Donc c'était très important. Alors qu'ils aient dit la vérité ou pas, on ne le sait pas, qu'ils aient exprimé ou pas. Vous savez, en plus, dans ce box et parmi les personnes qui sont sous contrôle judiciaire libre jusqu'au prononcé du verdict, il y a différents degrés d'implication dans le procès, différents degrés de radicalisation, différents degrés de vouloir mettre à genoux la France. Donc oui, c'est important. Nous avons préparé les victimes. Les victimes, pour elle, c'était très important que ce procès ait lieu. Il a eu lieu dans les meilleures des conditions qu'une démocratie et qu'un état de droit puissent offrir. Alors maintenant, on aurait pu faire mieux, très certainement. Est-ce qu'il fallait 10 mois pour...
Très éprouvant, 10 mois.
Extrêmement éprouvant. Est-ce qu'on ne pouvait pas entendre plus facilement la parole des accusés? Est-ce qu'il ne fallait pas les faire lever un par un pour, au moment des moments chocs de ce procès, pour les entendre lorsque... un des accusés, Usman, il ne reconnaît pas. Enfin, c'est son avocat qui dit non, je ne reconnais pas sur cette photo mon client. Lorsque la vidéo de la mise à mort du pilote jordanien dans les conditions les plus horribles, les plus inhumaines, est-ce qu'il ne fallait pas le faire lever pour lui dire que pensez-vous aujourd'hui, alors que vous aviez divulgué sur les réseaux sociaux que vous étiez derrière et que vous étiez en première ligne habillé avec le trier de l'État islamique. Cette parole-là, elle a manqué dans ce procès. Bon, j'espère qu'on tirera les leçons de ce procès. pour quand
vous
les
dites,
autres
j'espère
procès.
Qu'on tirera les leçons de ce procès, vous avez déjà en quelque sorte, vous considérez qu'au-delà de la question du verdict qui sera donc prononcé demain, pour vous, ce procès, il est terminé au sens où voilà, le jury est désormais retiré pour délibérer, les débats sont terminés et ils ont pu aller jusqu'au bout. Et quand vous dites j'espère qu'on tirera les leçons, vous pensez déjà au prochain procès qui s'ouvrira, c'est-à-dire en septembre, le procès des attentats de Nice. Il sera différent de celui qui vient de se passer et il y aura une autre manière de faire, des leçons qui en auront été tirées. Mais il y a, quoi qu'il arrive, la démocratie qui est passée.
Tout à fait. L'état de droit, le respect des droits des accusés. Ce que je souhaite, c'est que ce qu'on n'a pas fait depuis le procès de Merah et de l'hyper Cacher et de Charlie Hebdo, nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons. Les victimes, et ça a été rappelé dans le réquisitoire concernant les attentats du 13 novembre, n'ont pas été traité à la hauteur du drame qui a été vécu. Donc, c'est très important qu'on continue dans ce cheminement, qu'on continue dans la recherche de la vérité. Mais vous savez, les victimes, elles ont une conscience. Si je devais garder quelque chose de ce procès, c'est la dignité et le courage de l'ensemble de ces victimes, celles qui étaient derrière leur web radio ou qui se sont à la barre ou présentes. Tous les jours, elles étaient présentes. Et ça, c'est une marque de
la dignité,
de dignité
de ces victimes. Merci Samia Maktouf d'être venue dans ce studio. Vous étiez venue au début de ce procès il y a 10 mois. Je rappelle que vous êtes avocate et que vous représentez une quarantaine de victimes des attentats du 13 novembre. Ce procès qui s'est donc terminé hier. Merci à vous. Il est 7h52 sur RMC.
RMC, 6h-8h30.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC, semaine très politique à l'Assemblée avec des élections à des postes stratégiques hein, comme la présidence de la Commission des Finances ou la présidence de l'Assemblée. Quels sont les enjeux? Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, dans un instant sur RMC.
RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h56 sur RMC, l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas, c'est la semaine du partage des postes à l'Assemblée nationale. Élection du ou de la présidente, des questeurs, des présidents de commission. Il faut s'attendre à une semaine très politique.
Oui, et ça commencera tout à l'heure à 15h, donc avec l'élection du président. Séance qui sera présidée par le doyen José González, un pied noir de 79 ans, qui est député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Aux deux premiers tours, aucun candidat ne devrait obtenir la majorité absolue. Au troisième tour, la majorité relative suffit. Et la candidate du groupe macroniste, Yael Braun-Pivet, privée devrait donc l'emporter. Elle sera certainement, sauf accident, ce soir la première femme présidente de l'Assemblée.
Yael Braun-Pivet qui n'était pas la candidate d'Emmanuel Macron.
Et non, on le sait puisque le président la voyait au gouvernement. Elle avait été nommée ministre des Dom-Tom dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, mais cela ne l'a pas empêchée de se présenter au culot et de l'emporter lors de l'élection au sein du groupe. Il y a 5 ans, elle avait fait preuve du même culot. Tout juste élue pour la première fois, elle s'était présentée à la présidence de la Commission des lois, traditionnellement réservée à des députés très expérimentés, et à la surprise générale, elle s'est était déjà imposé. Yael Braun-Pivet devrait ce soir devenir donc le quatrième personnage de l'État derrière le président, le premier ministre et le président du Sénat.
La première ministre. Justement. Un autre poste très important qui sera attribué cette semaine, c'est celui de la présidence de la Commission des Finances.
Et là, attention, ça va être très chaud. La Commission des Finances, c'est celle qui a le plus de pouvoir et c'est aussi celle qui, depuis 2007, revient forcément à un député de l'opposition. Normalement, un élu du principal groupe de l'opposition. Mais qui est le principal groupe de l'opposition? Est-ce que c'est le Rassemblement National avec ses 89 élus, plus que la France Insoumise, ou bien est-ce que c'est la NUPES, l'alliance des 4 groupes de gauche? Le Rassemblement National revendique le poste pour Jean-Philippe Tanguy, la France Insoumise le revendique pour Éric Coquerel. Si Éric Coquerel recueille bien toutes les voix des groupes de gauche, il devrait l'emporter au troisième tour jeudi. Sauf que si les députés LR devaient voter pour le Rassemblement National, alors c'est Jean-Philippe Tanguy qui l'emporterait. Et selon Le Figaro, un tel accord entre la droite et l'extrême droite est possible. Les LR obtiendraient en échange un poste de questeur, celui qui est réservé à l'opposition, et les LR feraient ainsi barrage à Éric Coquerel, dont ils jugent l'élection dangereuse.
Et c'est un vote à bulletin secret.
À bulletin secret, et donc il suffirait de 2 LR qui anonymement votent pour le Rassemblement National.
Et que ce soit le Rassemblement National qui obtienne cette présidence de la Commission des Finances. Dangereuse, vous disiez, dangereuse l'élection, c'est ce que dit Éric Coquerel, parce que ce poste peut être en effet très très sensible.
Oui, parce que la Commission des Finances a le droit d'obtenir la levée du secret fiscal et de se faire communiquer les dossiers des entreprises comme des particuliers. Le président de la Commission des Finances fixe aussi l'ordre du jour de l'examen du budget. Il peut contrôler tous les ministères sur place et sur pièce, c'est-à-dire qu'un rapporteur de la Commission peut débarquer dans n'importe quel ministère et exiger de voir n'importe quel document. À droite, donc, on craint une instrumentalisation politique de ce pouvoir. Gilles Carrez, lui-même ancien président de cette commission, évoque un début de totalitarisme si on jette en pâture les dossiers fiscaux des particuliers. Éric Coquerel, lui, se scandalise de tels soupçons. Il conteste formellement l'idée qu'il puisse se lancer dans une chasse aux sorcières. Mais en tout cas, l'élection à ce poste, jeudi, à l'Assemblée, risque d'être électrique.
Et on suivra ça, évidemment, avec beaucoup d'attention. Merci, Nicolas. Il est 7h59. À tout de suite pour la météo du journal.
RMC, 6h-8h30.
Apolline Matin.